Donc voilà le thème du message
ce matin. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles sur un sujet d'école du dimanche, hein, c'est Genèse 6, on va lire quelques versets, on ne va pas tout lire. Voilà, à partir du verset 8, on va lire quelques versets de ce passage un petit peu en raccourci. Même on va aller vite fait à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je saute au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Verset 14, « Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. » Je vais un petit peu plus loin. « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qu'il y a sur la terre périra. Mais j'établis... » Je ne suis pas mis d'accord avec Colin, je vous le promets. Mais moi, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Je saute au premier verset du chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alors c'est vrai que c'est souvent un sujet un petit peu d'école du dimanche. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit quand on parle de l'arche de Noé? Qu'est-ce que c'est, quelle image vous vient? Le bateau, et qu'est-ce que c'est qui rentre dans le bateau? Hein, les animaux, l'image d'Épinal qui nous vient à l'esprit. Alors on va faire un grand saut en avant. On va aller dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, que je vais survoler. Ce chapitre 11, qui nous parle de la foi. J'aime beaucoup les trois premiers versets qui plantent le décor et auquel il faut vraiment se référer, s'accrocher. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dans le monde scientifique d'aujourd'hui, des versets comme ça prennent toutes leurs dimensions. On a besoin de s'accrocher à la parole de Dieu. J'espère que vous croyez que tout l'univers a été inspiré, créé par Dieu. Vous le croyez? Vous avez cette sainte assurance? Alors gardez bien ce verset accroché avec vous. Donc un peu plus loin, il y a toute une énumération, bien évidemment, de « c'est par la foi qu'Abel »,« c'est par la foi qu'Enoch », et ainsi de suite. Et puis on va s'arrêter, là au milieu, il y a un personnage qui ressurgit, qui est celui de Genèse, qui est celui de Noé. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors, pensez bien à l'image d'Épinal, hein, de la girafe, de la chèvre qui monte dans le bateau, mais regardez bien là ce qui reste au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Je répète, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, on va le voir un peu plus loin, il a décidé de faire cette folie de construire ce bateau. Parce qu'il était convaincu que vraisemblablement l'univers avait été créé par Dieu. Alors, il construit une arche pour sauver sa famille. Dans ce chapitre, on voit beaucoup de personnages qui nous sont décrits, des grands personnages qui, par la foi, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, Moïse, Josué à Jéricho, Rahab, la prostituée, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Alors vous me direz, ouais, mais eux, ils sont cités dans la parole de Dieu, c'est évidemment, ils ont marché par la foi, ils ont été en contact avec le Seigneur. Allons juste à la fin de ce chapitre pour conclure ce par la foi. Il est rendu aussi hommage à partir du verset 36. D'autres, par la foi, à cause de leur foi, ils subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Je vais au verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc à la fois ce chapitre nous décrit effectivement des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui ont marché par la foi, mais aussi rend hommage à tous ceux qui ont fini humainement très mal, mais qui ont pourtant avancé, continué, marché par la foi. Décision de Dieu du déluge pour le déluge. Revenons à notre ami Noé. Il lui ordonne donc de construire une arche pour sauver sa famille. Alors, je vais juste peut-être... Voilà. Voilà. Il n'y en aura pas plus. C'est les versets clés dont il faut se rappeler. Dieu lui dit « Construis cette arche ». Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu demander à ses légions d'anges de descendre sur la terre, de prendre Noé, sa famille, tout ce qu'il fallait, hop, les tenir en l'air, faire le ménage, et après reposer tout ça. Est-ce que vous doutez que Dieu ait eu la puissance de faire ceci? Il aurait pu décider complètement dans sa puissance de faire cela. Mais non, il va dire discrètement à Noé, construis un arche pour sauver ta famille, pour sauver ta maison. À cette époque, tout ce qui concernait les choses de Dieu sur la terre était bien évidemment tourné en dérision. Tout était en opposition avec Dieu. Si l'Éternel a pris une décision pareille, c'est qu'il devait, lui, le Dieu trois fois saint, avoir des raisons. Mais par la foi, Noé comprit qu'il devait obéir à Dieu, construire un paquebot au milieu du Sahara. Ça a duré du temps en plus, parce que je vous rappelle qu'à l'époque on vivait longtemps, hein, et je crois que quand il a fini, il avait 600 ans. Pour nous ce matin, la question que Dieu nous pose dans ce texte du Nouveau Testament. Que vais-je faire? Qu'allons-nous faire? Que fais-tu, toi, le père, le chef de ta famille, pour sauver ta famille? Comme Noé, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je l'espère du fond du cœur. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de longues études pour comprendre aujourd'hui que la famille est, avec l'Église, ce que le monde attaque le plus, ce que Satan attaque le plus. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez peut-être sûrement plus d'expérience que moi. Aujourd'hui, nous sommes des familles qui essayons de vivre selon les valeurs enseignées par notre Seigneur, par sa parole, et pourtant, souvent, nous nous trouvons dans des situations de ridicule. Appelons un chat un chat. Nous en avons eu un témoignage hier soir à travers nos amis. Essayer de proclamer les valeurs chrétiennes de la famille au sein d'une soirée avec des amis du monde, vous allez voir tout de suite les réactions. On se trouve donc ridiculisé. Quelques exemples. Abstinence sexuelle avant le mariage. No comment. Fidélité. Pas de commentaire. En face de ça, on met des distributeurs de préservatifs à la sortie des écoles, voire dans les cours des écoles. Quel message reçoivent nos enfants, notre famille, aujourd'hui? Moi, je n'ai pas reçu ces messages qu'ils reçoivent aujourd'hui. J'étais dans les cours d'école, on faisait des bêtises, mais je n'avais pas ces enseignements que le monde nous donne aujourd'hui. Dans la culture actuelle, ce n'est plus la famille qui transmet les valeurs à ses enfants, mais ce sont les associations, les institutions, les écoles que nos enfants attrapent depuis leur plus jeune âge, qui enseignent, qui reçoivent, qui transmettent les valeurs du monde actuel dès le plus jeune âge. J'en reviens encore un petit peu en détail. Récemment, il y a eu des débats, effectivement, pour tout ce qu'il faut pour se protéger pour les enfants en cas de rapport sexuel dans les écoles, mais même plus loin. Puisqu'il est question, on parle de pouvoir ouvrir l'accès aux jeunes filles simplement en allant voir l'infirmière à ce qu'on appelle à la pilule du lendemain. On est là aujourd'hui. Aujourd'hui, une infirmière dans une école n'a pas le droit de donner un cachet d'aspirine à vos enfants parce qu'il faut l'autorisation du médecin, parce que surtout pas. Par contre, une jeune fille va voir et dit « Écoutez, j'ai besoin de... » Ouais. On va avoir droit à ça demain. Voilà ce que le monde enseigne aujourd'hui. Nous voyons là combien, à travers ces exemples, et je suis sûr qu'il y en a bien d'autres, la famille traditionnelle, voulue par Dieu, c'est ce que je veux dire par traditionnelle, conservatrice, vous avez entendu, on dit le mot conservateur, ça veut tout dire, nous sommes des conservateurs. Combien cette famille traditionnelle est battue en brèche? Dieu nous dit dans sa parole, ce matin et depuis longtemps, par la foi, construis une arche pour sauver ta famille. Je pense que vraiment ce verset prend toute sa dimension. Malgré ce que disent certains sociologues, il n'y a pas de substitut à la famille voulue par Dieu. J'avais vu un reportage il y a quelques semaines en arrière sur des kibboutz en Israël, des kibboutz où c'était vraiment, ils se mettaient tous ensemble, ils mettaient tout ensemble pour travailler, y compris les enfants, les nouveau-nés. C'est-à-dire que les nouveau-nés, ils étaient, ça partait d'un bon sentiment, ils étaient tous mis à part, séparés de leurs parents, tout petits, comme Elliot, comme Alexis. Et les parents n'avaient juste le droit d'aller les voir une demi-heure par jour. Ils étaient tous ensemble, c'était des nounous qui s'en occupaient. Au bout de quelques années, ils ont vite arrêté. Parce qu'ils se sont rendus compte que la cellule familiale était ô combien importante pour ses enfants et que ses enfants étaient perdus, déséquilibrés. Je passe un peu plus loin. Aujourd'hui, divorce, bien évidemment. La séparation est tellement mise en avant. C'est devenu une normalité. C'est normal. À la moindre dispute, au nom peut-être d'un, appelons un chat, d'une insatisfaction ou d'un non-épanouissement sexuel de l'un ou l'autre, simplement parce qu'on n'a pas envie de continuer de vivre avec l'un ou l'autre, on casse tout, on brise ce merveilleux vase de cristal qu'est la famille, que l'on doit prendre, auquel on doit prendre soin. Nos enfants, ils ne sont pas là aujourd'hui, nous ont témoigné qu'au-delà de 10 ans de mariage, nous sommes des dinosaures. Vous pouvez demander, vous allez voir quand vous allez mettre vos enfants à l'école, combien dans la classe vont pouvoir dire, c'est pas une victoire, non, 10, 20 ans, 30 ans, 35 ans de mariage, ou 40 ans, 5 ans. L'union entre une femme et un homme est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, une des choses les plus précieuses aux yeux de Dieu. Par elle, ça aussi c'est important de remettre la famille dans une vision biblique. Par elle, Dieu délègue à l'homme et à la femme le pouvoir, si Dieu le veut, de donner la vie. Faire un enfant, c'est donner la vie. Dieu nous a délégué, comme il a dit à Noé, il a délégué de construire cette arche, il a délégué à l'homme et à la femme, multipliez-vous. Il nous a donné ce rôle merveilleux et c'est dans le cadre de la famille que nous devons accomplir ceci. Par un simple souffle, Dieu a donné la vie, rappelez-vous cette image, il a soufflé, il a donné la vie à l'homme et à la femme. Et maintenant, on peut se comparer un peu comme des courroies de transmission selon la volonté de Dieu. Il a donné à tous les hommes et à toutes les femmes de cette terre, cette possibilité de transmettre et de donner la vie. Mais le plan de Dieu, bien sûr, va au-delà de la naissance de l'enfant. Il compte sur nous, dans le cadre familial, pour faire grandir nos enfants dans les valeurs divines. Et ô combien c'est important aujourd'hui de s'accrocher à ça. Le propos de ce matin est de dire, c'est pas de regarder derrière, c'est de dire par la foi, qu'est-ce que je fais maintenant? Que faire maintenant? C'est pas le tout de se lamenter, de dire bon, c'était mieux avant. On est là, on est dans la galère, on est dans le monde, consumériste. Donc, le Dieu consommation, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, quand on prépare ce type de message et qu'on fréquente une assemblée depuis longtemps, ce qui est le cas, où on se connaît tous, j'ai mis cette petite phrase. Le propos de ce matin n'est pas de regarder le passé de nos vies, de ma vie, avec un regard accusateur. Vous savez, quand on a la chance ou le privilège de pouvoir parler dans d'autres assemblées où on connaît personne, on a la totale liberté de parole, d'accord? Ce matin, je vais prendre cette totale liberté de parole, déconnectée devant le Seigneur, je vous le témoigne, de quelque individu que ce soit. Le propos de ce matin est de dire par la foi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis en plein conflit dans mon couple. Non, je ne baisse pas les bras. Je ne fais pas comme le monde, je me tourne vers mon Seigneur et par la foi, je ne baisse pas les bras. J'ai un enfant difficile, dur. Non, je ne baisse pas les bras. Parce que par la foi, même si la récompense, même ce fin de chapitre aux Hébreux nous le dit, même si ce n'est pas demain, après-demain, par la foi, nous devons avancer parce que nous sommes enfants de Dieu et nous devons transmettre ses valeurs. Dieu, encore une fois, nous dit, te dit ce matin, construis un arche pour sauver ta famille. Même si c'est quelque chose, si ça te paraît une folie à tes yeux, aux yeux de tes voisins, aux yeux des autres. Petit rappel, aujourd'hui, nounou, crèche, école, télévision, et ainsi de suite. Tout va à l'inverse. Montons un petit peu plus loin sur un autre élément qui titille la famille. Quelque chose que je connais bien. Le business est aussi un grand ennemi de la famille, aujourd'hui. Absence du père en déplacement perpétuel. Pression financière du business. Ça veut dire quoi? Pas de communication? Peu? Difficile? Par mail? Par FaceTime ou des choses comme ça? Encore aujourd'hui, il y a des moyens de communication. Home office, papa connecté à son smartphone en permanence, samedi, dimanche. Le but n'est pas d'être un super businessman, mais d'être un bon mari, une bonne épouse, un bon père, une bonne mère. Tout ceci aux yeux de Dieu, bien sûr, dans le cadre que nous connaissons. Nous vivons, prenons un peu de recul, hein, vous avez quand même un peu le sentiment que nous sommes en plein dans un choc de civilisation. Vous avez le dieu laïcité de l'autre côté, qui rencontre actuellement, on en parlait, le dieu islam. On est bien d'accord, hein, le pauvre dieu chrétienté, là au milieu, il est coincé, assailli de droite et de gauche, dessus, dessous. Nous vivons dans une civilisation qui impose de nouvelles valeurs, qui rapidement deviennent et sont opposées à notre civilisation, à nos valeurs chrétiennes, notre identité en Christ. Toutes les choses, le monde devient, tout ce que le monde pense est à l'opposé de ce que nous croyons, et va devenir de plus en plus. Influence négative des médias. Série télé pour la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez traîné, mettez la télé de 17h30 à 18h, regardez un petit peu zappé sur les séries sur les ados, je ne vous explique pas le message qui passe. Quoi. C'est catastrophique. Je vous le promets. C'est catastrophique. Nous devons rester et nous cramponner au rôle que l'Éternel nous a confié. Autre parenthèse, série télévision, j'avais noté, pour la jeunesse, Internet, pardonnez-moi d'employer ce mot-là, pornographie depuis le plus jeune âge. Chers amis, il faut ouvrir les yeux. Vous prenez Google, vous tapez n'importe quoi, plaf. Et les enfants, à 10 ans, 12 ans, ils ont accès à tout ça, pour être suffisamment informaticien pour dire « je veux mettre un logiciel de protection familiale », vous pouvez toujours y aller, hein, parce qu'à l'école, ils vont toujours trouver des copains, des guides qui vont vous dire comment on bypasser ça, comment contourner ça. Et le massacre, parce que j'appelle ce mot, que peut faire dans un esprit d'un petit garçon ou d'une petite fille, que l'image qui est renvoyée de la sexualité voulue par Dieu, par des gamins de 10 ou 12 ans qui découvrent ça à la télévision, je vous explique pourquoi. Ça fait des handicapés de la vie. Mes frères, ça c'est plus pour nous les hommes, nous devons absolument être un autre détour. Nous devons impérativement être des pères, pas des copains, ou pire, pas des potes. Il n'y a rien de pire qu'un père qui est pote avec son fils. C'est catastrophique. Le père, il a un rôle dans la famille, bibliquement voulu par Dieu. Pensez bien toujours à ces choses. La responsabilité que Dieu nous a confiée en nous donnant ses petits-enfants. Soyons des pères. Bon, encore une fois, le monde, il est comme ça. Revenons rapidement à un texte aussi biblique. Matthieu 24. Que je l'ai mis là. Voilà. Matthieu 24, verset 24-37. Je vais peut-être lire dans mon texte. Je vais lire un texte un peu avant. Voilà, donc il est question, bien évidemment, le contexte, hein, c'est dans la parabole du figuier, le retour du Seigneur. Donc verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, vous connaissez la suite, puisque vous ne savez pas de quel jour votre Seigneur viendra. » Ceci pour faire le lien entre ce texte qui date de la Genèse, on dit « c'est Noé ». Il en sera de même le jour du retour du Seigneur. On est exactement dans le même contexte. Le monde, la terre rejette, je ne veux pas faire de la prophétie, le Seigneur revient demain, mais ouvrons les yeux, quoi. L'apostasie arrive à son comble. Et on discutait encore avec des amis, pour que le Seigneur vienne sur cette terre, il faut que l'iniquité soit à son comble. Ça veut dire, l'iniquité, c'est tout ce que le monde rejette complètement Dieu. Ne rêvons pas en disant, ça va être tout beau, on va vivre sur la terre aujourd'hui, dans 2 mois, un monde de bisounours parfait. Non, c'est pas ce que les Écritures nous disent. Le Seigneur dit, quand il va revenir, « Trouverai-je encore un peu de foi sur cette terre ?» Alors l'Éternel nous dit encore ce matin, « Construis un arche, sauve ta famille. » C'est parce qu'elle est en danger s'il nous demande de la sauver. Alors, nous vivons donc dans les temps décrits par Matthieu. Encore une fois, le monde va à l'opposé des choses qu'enseigne la parole de Dieu. Nous devons réapprendre, jour après jour, à vivre au plus près de notre Dieu, d'être dans son intimité, afin de pouvoir transmettre cette intimité. Vous vous rappelez que je l'ai peut-être déjà dit, j'aime bien ça, le livre d'Ulysse, hein, vous savez, sa femme, Pénélope, hein, qui retissait la nuit ce que le monde... Le rôle de la famille aujourd'hui va être de détisser ce que le monde va tisser la journée à vos enfants, à nos petits-enfants. Parce que les nouveaux programmes de l'école vont enseigner l'hétérosexualité, la bisexualité, l'homosexualité, tout ce que vous voulez, le changement des genres. Aujourd'hui, vous allez en Argentine et dans d'autres pays, vous allez à la mairie, vous dites « je m'appelle plus Stéphane, je m'appelle Stéphanie » et vous repartez avec un nouveau papier d'identité « je suis Stéphanie Détriche ». On est en plein dedans. Le seul moyen, aujourd'hui, nous devons réapprendre, se maintenir de plus en plus près de notre Dieu. Prendre du temps à l'écoute du Père, à l'aide du Saint-Esprit, notre frère nous l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons un aide qui est l'Esprit-Saint en nous, qui nous souffle que nous sommes enfants de Dieu. Réfugions-nous auprès du Père. Ce temps, bien sûr, c'est le bien que nous possédons le plus précieux sur cette terre, parce qu'on n'est pas maître du temps. Noé vivait tellement près de Dieu qu'il pouvait entendre ce que Dieu lui disait, « Construis une arche pour ta famille. Construis une arche pour ta famille. » Dans ce texte de Hébreux 11, il nous est dit en premier lieu « par la foi ». C'est le préliminaire à tout. Par la foi, vous avez tous acquiescé que l'Éternel, par sa volonté, avait créé l'univers. N'est-ce pas? Par la foi, nous devons prendre nos outils et construire une arche pour notre famille. Par la foi. Si vous entreprenez quelque chose pour faire sans être mû par la foi en Dieu, c'est même pas la peine. Chaque fois que nous prenons une décision pour Dieu, contre le monde, nous affirmons notre foi, nous affirmons notre chrétienté, nous montrons au monde notre identité. Ce n'est pas forcément la solution de facilité. On se fait taper sur les doigts. On se fait prendre pour des ringards, pour tout ce que vous voulez. Ça sent mauvais. C'est plein de chrétiens ici. Vous ne l'avez pas entendu ? Il est important de construire par la foi, même si le monde dit l'inverse. Cette semaine, j'étais en déplacement en Belgique, 2 jours. J'étais au restaurant avec une connaissance, un ex-client, qui me dit, tiens, en Belgique, l'euthanasie est légale. Hier, nous avons reçu un email et sur Facebook d'une personne âgée, qui était malade, fatiguée, qui a décidé d'interrompre sa vie. Et le message était le suivant. « Chers amis, membres de ma famille, demain, à cette heure-ci, dans 24 heures, je ne serai plus. » Ça veut dire que la personne avait écrit, et le lendemain, 24 heures après, la famille était là, le gars était sur son lit, le médecin est arrivé, la piquouse, au revoir. C'est aujourd'hui, mes frères et sœurs. Demain, c'est chez nous. Demain, c'est chez nous. Vous savez qu'on s'occupe un petit peu de maisons de retraite, d'EHPAD, à Lyon, là. C'est le grand discours sous-jacent. Le grand discours sous-jacent. Demain, on va venir, on va avoir des familles, si c'est un peu légalisé, qui vont venir nous dire, ben voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui. Tout le monde, la démocratie dans laquelle nous vivons, qui est l'expression de la volonté du peuple et non pas celle de Dieu. Voilà. Alors, Dieu, lui, est invariable. Il ne change pas. Ce petit verset qui avait été cité lors de l'étude de François, Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga du Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il y a aussi, et je m'arrête, je le dis tout de suite, c'est ma dernière page. En parallèle de la foi, au début du verset que nous avons lu, il y a aussi la notion de vivre dans la sainte crainte de Dieu. Ça, c'est un sujet aussi délicat. Mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, on a souvent un peu le sentiment dans le monde évangélique, surtout dans le milieu évangélique anglo-saxon, que je connais un petit peu, ou même dans certains grands mouvements, où c'est un peu le monde évangélique bisounours, avoir Dieu pour ami, ouais, Dieu c'est mon pote, papa, tout ça. Il m'a sauvé. Oui, mais c'est toujours Dieu le Père, le Dieu Saint, pour qui le péché est en horreur. Oui, nous sommes pardonnés. Mais tous les hommes de Dieu, décrits dans ces exemples d'Hébreu 11, ont marché, ont avancé dans la sainte crainte de Dieu. Non pas avoir la frousse, mais de marcher dans la sainte crainte de Dieu. Aujourd'hui, on a presque honte de dire que je marche jour après jour dans la crainte de notre Seigneur. On doit le craindre parce que c'est un Dieu tellement puissant, tellement grand. Je ne vais pas le relire, mais vous avez vu, heureusement, il s'est engagé à ne pas la reprendre. Mais la décision, quand même, qu'il a prise au niveau du déluge. Je ne sais pas si humainement vous avez pris la dimension de la décision qu'a pris Dieu ce jour-là. Hein. Ah, la soupe est cuite, c'est ça. Voilà. Non, c'est midi moins 20. Non, je ne suis pas en retard. D'accord. Voilà. Alors la notion de vivre dans la crainte de Dieu, non pas avoir peur d'avoir un Dieu autoritaire, mais vivre dans la crainte d'un Père aimant, d'un Père saint. Et je boucle la boucle. Voilà comment Léo doit voir son Père, comment un autre, j'en ai pas d'autres sous les yeux, d'accord, doit voir son papa. Un père aimant, un père représentant la sainte autorité de Dieu dans la famille. Voilà le rôle du père qui nous est décrit ici. notre Père Saint, il doit être au quotidien notre référent, notre conseiller, notre confident. On en a parlé, notre frère nous a parlé du temps que parlait Spurgeon, de passer Spurgeon dans la prière avec son Seigneur. Il est celui qui écoute et exauce nos prières. Pas le mettre de côté, pas l'oublier ça. Même s'il y a plein de questionnements de pourquoi, ça fait rien. Par la foi, je sais qu'il entend ma prière. Par la foi, si c'est sa volonté, il va exaucer mes prières. Pourquoi ? Il y en a qui ont été dans ce texte d'Hébreux 11, qui ont été sciés, coupés en deux, ces héros de la foi. Même nous demanderons à l'Éternel le jour J. Mais par la foi, frères et sœurs, marchons, avançons, quoi qu'il en coûte, dans les valeurs qui sont enseignées par notre Seigneur. Alors, n'oublions pas aussi que nous avons un Dieu qui accomplit des miracles. Nous avons un Dieu qui nous a scellés, nous sommes scellés de l'Esprit Saint. On est souvent un peu manchot dans nos communautés en parlant de l'Esprit Saint, n'est-ce pas ? Mais c'est lui qui nous fait avancer, c'est lui notre moteur. On sait bien qu'en devenant enfant de Dieu, en ayant notre pleine identité en Christ, nous avons reçu cette part. Christ a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vais vous laisser le Consolateur. » Il est là jour après jour pour nous souffler que nous sommes enfants de Dieu et qui nous souffle la route. Écoutons-le. Par la foi, marchons. Par la foi, on doit prendre des décisions pour notre famille. Ce n'est pas ni le voisin, ni Pierre, Paul ou Jean. On peut les écouter, mais dans le secret de la famille, en priant le Seigneur, il est notre confident, il nous écoute, il nous inspire. Comment voulez-vous qu'il influe notre cœur, notre raisonnement, si on ne l'écoute pas, si on ne s'adresse pas à lui ? Consacrer du temps pour construire une arche et sauver sa famille. Prendre du temps, j'avais mis en anecdote, pour les papas, être présent au bord du terrain pour voir le but de son fils, ou être là pour voir le spectacle de danse pour ses enfants. C'est des tout petits détails, je ne dis pas qu'il faut y passer sa vie autour du stade, mais il y a des rendez-vous très importants qui marqueront votre enfant. Moi, j'ai été élevé dans une famille qui n'était pas chrétienne, mais des parents qui m'ont transmis des valeurs et tout, je leur serais éternellement reconnaissant. Mon papa avait une petite entreprise, prie 7 jours sur 7, âge 24, ainsi de suite. Mais les rares fois où il est venu me chercher à la sortie de l'école, comme j'étais fier de voir mon père est venu me chercher. L'image du papa, c'est ce père saint aimant qui vient là. S'il ne regarde pas son père, il va regarder ailleurs. Prenons soin donc de prendre de bonnes décisions pour notre famille. Chaque fois que nous acceptons de faire ce que dit Dieu, nous refusons ce que le monde nous demande de faire. C'est-à-dire, t'occupe pas de ta famille, t'occupe pas de tes enfants, nous on va s'en occuper. Tu vas alors, toi, leur enseigner des vieilles racines judéo-chrétiennes, c'est mauvais pour la démocratie de demain, tu vas voir, on va s'en occuper. C'est ça, hein ? C'est ça. Je le redis encore une fois, en haut lieu, il y a des éminences intellectuelles fortes, athées, qui bossent à la construction d'un nouveau code civil qui va essayer, dans lequel ils vont extirper toute racine judéo-chrétienne. Le décalogue, hein, le code civil, c'est la base, c'est le décalogue. Le plus bel héritage que nous pouvons recevoir ou transmettre, c'est pas de donner ou de recevoir des millions d'euros ou de dollars, mais c'est celui d'avoir été élevé dans une famille aimant Dieu et vivant quotidien dans son intimité. Alors, pour terminer, je vais parler, là peut-être un sujet sensible, délicat, tant pis, qui nous touche plus ou moins de loin. Une relation dans la famille, brisée, avec un enfant, un membre de la famille, c'est l'arche qui prend l'eau. C'est une brèche grande ouverte dans cette famille. Il y a peut-être ce matin des personnes qui souffrent de ça, et je vous promets devant le Seigneur que je ne pense à personne en particulier, qui vivent des relations difficiles, brisées. Mais par la foi, ne baissons pas les bras. Avec la grâce de Dieu, rentrons chez nous, prions, trouvons la force de dire à celui, à celle qui nous a brisés, offensés, « Je t'aime ». Dieu nous a transmis ses valeurs, son amour. Nous avons été touchés. On a prié ce matin. Nous avons été émus, nous avons été changés, bouleversés par l'amour de Dieu pour nous. Frères et sœurs, bouleversons ceux qui sont autour de nous par l'amour que Dieu a déposé en nous. Un mot d'amour, souvent, fait briser, fait s'effondrer des murailles d'incompréhension et de bêtises qui sont là construites depuis des années. Dire « je t'aime », c'est reprendre la construction de l'arche. C'est reconstruire des relations, c'est à nouveau re-sauver sa famille. Avant de prier, rappelons-nous ces trois premiers versets de Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Non, les bras de l'Éternel ne sont pas trop courts pour agir. Frères et sœurs, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons tout simplement nous incliner devant toi, comme le dit ce chant, tout petit devant ta face, tel des enfants. Nous voulons te dire, Seigneur, renouvelle peut-être notre foi. Seigneur, redonne cet éclairage, cette vision de la foi que nous devons avoir de notre vie. Seigneur, donne-nous aussi, merci pour ce rappel, pour chacun, pour moi aussi, de cette vision de l'arche, de ce rappel de l'arche de Noé dans le Nouveau Testament. Seigneur aussi, de ce rappel avant le retour de notre Seigneur, ô combien il est important, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, de construire cette arche pour sauver notre famille. Seigneur, jour après jour, les temps seront sûrement pas très simples, Seigneur, mais par la foi, nous voulons avancer et marcher et croire qu'il est ce Dieu qui prend soin de tes enfants et des enfants de tes enfants. Seigneur, sois encore vraiment béni dans le bon nom de ton Fils. Amen.
Merci Dieu pour ce défi de participer à la construction de l'arche. Et aussi pour ce rappel, voilà, que notre arche, c'est ce que Dieu a fait, c'est l'œuvre qu'il a accomplie, c'est ce que Christ a fait pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais laisser la parole à Sam, qui a justement sa frère, pour terminer le prix.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Comme Colin l'a dit,